Ce matin, nous sommes très heureux de vivre ce culte abrégé avec des plus jeunes d'entre nous, nos enfants. D'autres sont à la bergerie avec une équipe qui prend soin d'eux aussi. Donc le message de ce matin a pour défi de pouvoir parler à vous les enfants, de vous rendre participatifs sans perdre les adultes. C'est toujours un défi redoutable. Et en plus, mon épouse me défie en me chronométrant. Donc, je vais aller très vite. Je crois qu'il y en a qui prient depuis 2 ans pour que le pasteur fasse des prédications courtes. Et je ne sais pas s'ils ont invité mon épouse au café ou à manger, mais en tout cas, ce matin, elle me met une grosse pression. C'est l'histoire d'un prédicateur qui est attendu, un évangéliste, invité à prendre la parole un soir dans une église. Écoutez-moi bien les enfants, je vais vous poser des questions, les grands aussi. Cette histoire se passe quelque part loin d'ici, où on coupe souvent l'électricité facilement. Vous avez peut-être connu ça, moi j'ai connu ça. Voilà qu'au moment où le prédicateur monte sur l'estrade, comme moi ce matin, paf, petite coupure d'électricité. Mais ils avaient prévu un groupe électrogène. C'est une sorte de moteur dans lequel on met du carburant, on démarre et puis ça prend le relais pour que l'éclairage et l'électricité fonctionnent. Alors ils avaient oublié quand même un responsable du groupe électrogène. Mais voilà que dans l'assemblée, il y avait un petit garçon. Et lui, il avait remarqué qu'il n'y avait personne à côté du groupe électrogène. Et il s'était dit, je vais rester là au cas où il y a coupure d'électricité. Et en fait, aussitôt la coupure d'électricité arrivée, il démarra le groupe électrogène. Tant et si bien que le prédicateur et presque l'église n'a pas senti qu'il y avait eu une coupure, un délestage électrique. À la fin de la prédication, à la fin de ce beau culte, le prédicateur a remercié l'accueil, il a remercié la chorale, il a remercié à ceux qui ont préparé le café, enfin il a remercié ceux qu'il a vus engagés et il a oublié ce petit garçon. Vous savez, la vie est remplie des histoires semblables, des gens qu'on oublie. Des gens qui font des choses, des gens qui écrivent l'histoire, mais qu'on ne remarque pas. Des gens qui sont présents, mais qu'on ne voit pas. Peut-être parce qu'on ne les entend pas assez. Peut-être parce qu'on ne prend pas le temps de les connaître. Et l'histoire que nous allons lire ce matin est une histoire qui est remplie de ces gens qu'on ne voit pas, de ces gens qu'on n'entend pas souvent assez, mais qui vont écrire l'histoire avec Dieu. C'est le récit très connu de la guérison de Naaman. Alors, peut-être certains adultes connaissent, mais je vais la raconter du point de vue de ces personnes qui jouent des rôles secondaires, des seconds couteaux, qui ne sont pas devant la scène comme moi ce matin, et qui écrivent l'histoire avec Dieu. Parce que je voudrais dire à nos enfants, et à nous d'ailleurs ensemble, que peu importe ton âge, peu importe si on te voit ou si on ne te voit pas, Dieu t'aime, il te voit, et il voit ce que tu fais de bien, il veut te bénir. Il voit aussi bien sûr ce que nous ne faisons pas de bien, et il veut nous pardonner et nous transformer. Grâce à de telles personnes, ce matin nous allons voir comment Dieu a changer la vie d'un homme, Naaman. Alors, l'histoire se passe 800 ans avant Jésus. Donc, pour les enfants, je dirais longtemps, longtemps, très longtemps avant Jésus. Et elle nous est racontée ici dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 et suivant. Je lis la parole de Dieu. Écoutez bien, les enfants. Après ça, on va essayer de faire question pour des champions. Vous êtes des champions, n'est-ce pas? Vous êtes champions? Super, je compte sur vous. Naaman, nous dit la parole de Dieu, verset 1. Naaman, le chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme important aux yeux de son Seigneur. Il jouissait d'une grande considération, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. Lors d'une expédition, des troupes araméennes avaient ramené captive du pays d'Israël une petite fille. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon maître allait chez le prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint dire à son seigneur, « La jeune fille d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi d'Aram dit, « Vas-y, j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Et il partit en prenant avec lui beaucoup de cadeaux, 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or, des vêtements de fête. Il apporta au roi d'Israël la lettre et il est écrit sur cette lettre, « Avec cette lettre, je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre ? Pourquoi s'adresse-t-il ainsi à moi ? Puis-je débarrasser cet homme de sa lèpre ? Constatez, voyez, je vous prie, qu'il me cherche querelle. » Lorsqu'Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse-les venir chez moi, je te prie, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, impressionnant. Il s'arrêta à l'entrée de la maison d'Élisée, le prophète. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair, ta peau redeviendra saine et tu seras pur. » Naaman s'irrita, il se mit très en colère. Il s'en alla en disant, « Mais je me disais qu'il sortira de et se tiendra devant moi. Je pensais qu'il invoquera le nom du Seigneur, son Dieu, qu'il agitera sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. » Les fleuves de Damas, la Banna, le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? En gros, il est en train de dire qu'il a des super piscines dans son pays, des super lacs, des super points d'eau. Ne pouvais-je m'y laver pour devenir pur ? Alors il repartit, mais en fureur, fâché, énervé. Là, on se dit que l'affaire est en train de mal tourner, ça tourne au vinaigre, n'est-ce pas ? On se dit pour un général, c'est la guerre. Mais, écoutez bien, ses serviteurs vinrent lui dire, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? À plus forte raison s'il te dit, lave-toi et sois pur. Naaman descendit alors et se plongea 7 fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il y en a qui savent compter, hein, jusqu'à 7. Ça, c'est formidable. Et selon la parole de Dieu, alors sa peau, sa chair redevint comme celle d'un petit garçon. Il était pur. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute sa suite, c'est-à-dire son char, ses chevaux, ses cadeaux. Et il lui dit ceci, « Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de ma part. » Élisée répondit, « Par la vie du Seigneur, au service duquel je me tiens, je n'accepterai pas. » C'est Élisée, hein, c'est dommage. Moi, j'acceptais bien des baskets comme cadeau d'anniversaire aujourd'hui. Merci à cette personne, hein. Mais moi je ne suis pas Élisée, hein, la preuve. Hein. Vous verrez que Élisée avait des raisons de ne pas accepter. Hein. Naaman insista pour qu'il accepte, mais il refusa. Alors Naaman dit, « Dans ce cas, je te prie, qu'on me donne à moi ton serviteur de la terre, la charge de 2 mulets. » En fait, il dit, « Je veux rentrer avec un souvenir important, la terre de ce pays. » Je veux appartenir à cette terre d'Israaël. J'en prends une quantité et je rentre, comme ça je vais me rappeler. Là où je serai, le Dieu d'Israël agit sur la terre d'Israël. Alors Naaman dit, je vais aller avec cette terre, comme ça Dieu va m'accompagner, il va continuer d'agir. Car je ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur. On peut s'arrêter ici, même si normalement ça va à tout le chapitre. Alors les enfants, si vous avez bien écouté, je compte sur mes jeunes là-bas à la Sono. On va commencer à suivre parce que maintenant je vais suivre avec vous. Qui était Naaman? Alors, attendez, on va mettre hein, question pour un champion quand même. Hein? Alors, la réponse A, un roi. La réponse B, un bon serviteur. La réponse C, un vaillant guerrier. La réponse D, un général. Qui était Naaman? Oui.
Un général militaire.
Un général militaire, réponse D. J'avais vu une main se lever ici. Qui était Naaman?
Un général militaire.
Un général militaire. Donc tout le monde est d'accord, Naaman était un général militaire. Dans cette question, il y a quand même un piège parce que deux réponses sont vraies. Qui était Naaman?
Un bon serviteur.
Ah, un bon serviteur, ça c'était un piège. Mais on va voir, peut-être qu'on va rattraper ça. Qui était Naaman? Quelle est l'autre réponse vraie?
Un vaillant guerrier.
Un vaillant guerrier, ça c'est vraiment une expression typiquement hébraïque. Gibor Haïl, un vaillant guerrier. Cette expression est utilisée souvent dans la Bible d'ailleurs, très rarement pour quelqu'un qui n'est pas israélite. C'est ce que Dieu va dire à Gédéon quand il est oppressoir. Hein, et qu'il est déprimé, et qu'il se cache, qu'il vit mal l'oppression. Dieu va le saluer, Dieu va le surprendre en disant « Bonjour, vaillant guerrier, Gibor Haïl !» Il lui dit « Mais comment tu peux m'appeler Gibor Haïl ? On nous a battus, on nous pille, on nous oppresse. » Dieu voit en lui un vaillant guerrier. Voyez ? Donc la bonne réponse, c'est un général de Dieu et un vaillant guerrier. Deuxième question. Quelle maladie avait Naaman? Il avait une rage de dents. J'en peux plus la nuit. Oh, oh là là. Il avait la gastro. Vous savez que Kylian Mbappé a eu la gastro récemment. Il était empêché de jouer. Hein. Il était à l'hôpital pour ça. Il avait la varicelle. Ou la lèpre. Je vais donner la parole là où les mains ne se sont pas encore levées. Ah, il y a encore une main. Je vais d'abord aller là-bas parce que là, on n'a pas encore parlé. Qu'est-ce qu'il avait comme maladie?
La lèpre.
Il avait la lèpre. Et toi, qu'est-ce que tu aurais voulu dire?
La lèpre.
Super. Et vous aussi, c'est la lèpre? Alors, on peut applaudir pour tous ceux qui avaient la lèpre. Et toi, tu avais une autre maladie que tu avais vue? La lèpre aussi? Alors... Les enfants, petits et grands, nous on a appris à l'école qu'on appelle ça la maladie de Hansen, mais à cette époque-là, ce n'est pas certain qu'on avait la possibilité de ce diagnostic. Le mot hébreu désigne une maladie de la peau qui peut recouvrir différentes autres maladies. Mais une chose est sûre, c'était une maladie grave qui ne savait pas guérir et qui se voyait, ne pouvait pas le cacher. Et ça rendait impur, on ne pouvait pas se mélanger trop avec les personnes pour aller prier, etc. Et puis ça faisait moche. Vous imaginez, quelqu'un a déjà eu la varicelle? Vous avez un bon souvenir de la varicelle? Ça chatouillait? Ça grattait? Ça grattait, hein? Est-ce qu'on avait droit de repartir à l'école pendant que ça grattait? Non, on devait rester à la maison quelque temps, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Hein? Ah non, vous n'avez pas eu la varicelle? D'accord, voilà. Mais vous voyez, mais Naaman, il avait plus que la varicelle. La varicelle, c'est presque bénin. Bon, ça dépend, on peut l'avoir très fortement. Mais ce qu'il avait, on ne savait pas le soigner à son époque. On ne savait pas le soigner, ça rongeait sa peau. Et ben voilà. Et Naaman était désespéré, il a cherché toutes les solutions. Alors il faut se rappeler quand même que c'est quelqu'un d'important. Il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de puissance, il est général, c'est-à-dire c'est le chef des armées de la Syrie de l'époque. Hein, Et puis il est l'ami de puissants, il va voir le roi qui est puissant et le roi lui dit « Je vais t'aider à trouver une solution à ton problème ». Le roi dit « C'est un petit problème, tu prends ce qu'il faut comme argent et comme cadeau, on va faire des cadeaux au roi d'Israël et puis je vais lui demander de te débarrasser de ton problème, il va régler ton problème, d'accord ? Seulement, ça ne va pas vraiment passer par cette voie-là. On va voir maintenant l'exemple de quelques personnes qui ont écrit l'histoire, sans lesquelles le récit ne serait pas pareil. D'abord, la première personne qu'on va voir, Bon, ça, c'est la problématique. Voilà, c'est cette jeune fille. Alors, c'est une illustration, hein, c'est un dessin. D'accord ? Et si la petite servante avait une idée ? Qu'est-ce qu'on sait de cette petite servante ? Vous avez bien écouté l'histoire ?
C'est la servante de sa femme ?
La servante de sa femme ?
Oui, la servante de la femme de Naaman.
La servante de la femme de Naaman. Les adultes ont le droit de participer aussi, hein, c'est...
Prise en otage, exilée.
Prise en otage, exilée. D'autres ? Pardon ? Esclave, tu peux le dire.
Esclave.
Voilà, esclave, on dit servante parce que ça atténue un peu l'affaire, mais c'était l'esclavage, hein, elle n'avait pas choisi ça. Naaman, un jour, est allé en guerre. Le texte ne nous dit pas trop si c'était une guerre contre Israël ou contre un autre peuple voisin, mais... Le texte quand même nous laisse penser qu'il y a eu quelque chose avec Israël. Naaman est un Syrien, c'est un païen, il va faire la guerre à Israël, au peuple de Dieu. Et en repartant, ils prennent des prisonniers. C'était les lois de la guerre. Et encore aujourd'hui, malheureusement, ça se passe souvent comme ça. C'est-à-dire qu'on fait des choses pas jolies. La guerre est toujours terrible. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre des hommes, des femmes, et il va même prendre des enfants. Et parmi les enfants qu'il ramène en Syrie, dans leur pays, il y a cette petite fille d'Israël. Et cette petite fille d'Israël, on peut ajouter qu'elle connaissait l'histoire de son peuple. Elle connaissait le Dieu de ses parents. Et c'est là que parents, ça devient intéressant, parents et grands-parents, transmettons-nous à nos enfants les clés de compréhension de la grande histoire de Dieu. Parce que, remarquez que cette petite fille, elle va oser parler. Qu'est-ce qu'elle dit ? Ça va s'afficher si vous ne vous souvenez pas, mais d'abord, qu'est-ce qu'elle dit ? Vous m'avez écouté ou pas, les adultes, hein ? Tabitha, tu m'as écouté ou pas ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Ah, je reviens bien.
Si seulement son maître pouvait aller voir le roi, le prophète Élisée.
Oui, voilà, on peut afficher le texte, hein ? Je vais vite, je suis chronométré, n'oubliez pas. Si seulement mon maître pouvait aller voir un prophète en Israël. Alors ça, c'est la version raccourcie, la version du texte même s'affiche. Elle dit à sa maîtresse, c'est-à-dire à sa patronne. Oh, si mon maître allait chez le prophète, elle n'a pas parlé du roi. Chez le prophète, qui est à Samarie ? Elle pense au prophète Élisée. Celui-ci, elle reprend les mots de la lettre qu'on va trouver dans la lettre pour montrer que ça a été influent. Son témoignage, le débarrasserait de sa lèpre. La question de cette histoire, mais c'est qui peut débarrasser un général de sa lèpre ? La puissance militaire ne suffit pas, la puissance d'un roi ne suffit pas. Mais qui donc peut le faire ? Son argent ne suffit pas, qui peut le faire ? Et là, il y a une petite fille, une jeune fille qui ose ouvrir sa bouche. On a vu, elle est jeune. Elle était prisonnière de guerre, elle est en esclavage, mais sa foi va faire la différence. Et c'est là qu'elle devient un modèle pour petits et grands, parce qu'elle a une foi qui fait la différence. Elle croit que le Dieu d'Israël peut bénir même un ennemi de son peuple. Elle croit que le Dieu d'Israël peut ne pas faire de favoritisme, qu'il s'intéresse à tout le monde, et que même si Naaman n'est pas de son peuple, il a un problème, elle pense... Elle croit qu'il y a une solution, mais cette solution n'est pas dans un palais, c'est auprès d'un homme de Dieu, d'un prophète, qui est le prophète Élisée. On poursuit l'histoire. L'apôtre Paul a écrit à un jeune, Timothée, et je parle aux jeunes, bien sûr, mais au-delà. Il leur a donné cette parole dans 1 Timothée chapitre 4, versets 12 à 14. « Que personne ne méprise ta jeunesse !» Alors je sais que c'est une parole qu'on dit toujours aux enfants, aux plus jeunes, mais c'est une parole aussi qu'on peut dire aux adultes. Ce n'est pas parce que tu es converti depuis peu, ce n'est pas parce que tu n'as pas de diplôme en théologie ou dans n'importe quel domaine que tu dois te disqualifier, que tu dois te mépriser ou bien qu'on doit disqualifier ton premier avis. Que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne méprise ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Alors, grâce à la parole de cette jeune, l'histoire va prendre une autre direction. Là où Naaman ne voyait plus d'espérance, un espoir va naître. Et il va aller en direction d'Israël. Mais seulement, il va aller d'abord vers le roi. Et là, ça ne va pas bien se passer. Le roi va vivre ça comme une provocation. Donc, gros incident diplomatique. Qui suis-je ? Suis-je Dieu ? Comment je peux te débarrasser de ta lèpre ? C'est une provocation. Qui peut débarrasser de la lèpre ? Et c'est là qu'un autre serviteur, envoyé par Élie, vous allez remarquer quelque chose, on ne connaît pas le nom de la petite fille. Et on ne connaît pas le nom de ce serviteur d'Élie. Il y en a un dont on nous donne le nom, mais le texte ici ne nous dit pas que ce soit le même. Et le serviteur d'Élie, il va. Comment on peut qualifier ce serviteur ? Son maître lui dit, va trouver le général qui se trouve devant la maison, un général. Lui, il est juste un simple serviteur. Et il doit lui donner une parole, va te laver. Moi, je ne sais pas si quelqu'un vous disait ça. Comment vous prendrez les choses ? Va te laver 7 fois dans le Jourdain. C'était facile pour le serviteur d'aller donner une telle parole ? Coucou, vous êtes là ? C'était facile ? C'était facile, c'était simple. Hein ? On vous a déjà chargé d'un message pour quelqu'un ? Hein ? Quand c'est un message joyeux, comme joyeux anniversaire à toi aujourd'hui, c'est facile, n'est-ce pas ?
Ouais.
C'est ton anniversaire aujourd'hui aussi. Joyeux anniversaire. On peut l'applaudir, hein ? Moi, c'était un dimanche, hein, il y a 45 ans. Donc, c'est vraiment, vraiment, ma maman m'a dit, tu sais, c'était un dimanche. Et toi, c'était quel jour de naissance, tu sais ?
C'était un dimanche aussi.
Un dimanche aussi. Il y a du bon en toi. Hein. Deuxième changement, renversement, deuxième progrès dans cette histoire, Élisée, qui est un personnage en vue, un personnage de premier plan, dans l'ordre, j'ai envie de dire, des prophètes, c'est quand même celui qui a reçu la double portion d'Élie. C'est lui qui envoie dire au roi, ne t'inquiète pas, pourquoi tu manques de discernement ? Il y a un prophète à Israël. Pourquoi tu déchires tes vêtements ? Pourquoi tu te mets en deuil ? Pourquoi tu te mets dans cette attitude ? Réfléchis. Et s'il y avait là l'opportunité de montrer que le Dieu d'Israël vit et qu'une défaite militaire n'est pas une défaite de Dieu ? Et là, il envoie son serviteur. Et son serviteur va dire, va te laver 7 fois. Alors pourquoi 7 fois, c'est difficile ici à vous expliquer tout, mais on dit souvent 7, c'est le chiffre de la perfection. Mais c'est surtout que ça rappelle ce qui s'est passé au chapitre 4. Hein, au chapitre 4, Élisée a été utilisé par Dieu pour bénir une femme juive, hein, la veuve, n'est-ce pas, la Shunamite. Et elle a eu un fils, et ce fils est mort. Hein, et il a fallu à 7 reprises qu'Élisée s'y reprenne pour que l'enfant, hein, n'est-ce pas, revienne à la vie. Il a éternué 7 fois. Vous voyez, il y a des parallèles. Là, Fred n'est qu'à 3 fois, mais à 7 fois, il va, hein, à 7 fois, il revivra, hein, n'est-ce pas ? Donc, très très bien. Le serviteur, il est, pardon, on ne revient pas en arrière, je résume ça, en arrière juste. Ce serviteur, il n'a pas peur. Il fait simplement ce qu'on attend de lui, il obéit et il dit exactement la parole qui lui a été donnée. Il est fidèle, il n'enlève rien, 4 fois, il n'enlève rien, il n'ajoute rien. Est-ce qu'il y a d'autres serviteurs qui sont intervenus dans cette histoire ? Oui, les grands, les serviteurs de Naaman. Ils vont également être décisifs dans ce récit. Sans eux, le récit Naaman passe à côté de sa guérison. Sans eux, Naaman passe à côté de sa guérison. Ça n'a pas commencé par un roi ni par un prophète, ça a commencé par une petite fille qui a osé témoigner ce qu'elle savait, ce qu'elle croyait. Ça se poursuit par un serviteur fidèle qui transmet le message qu'on lui donne, simplement. Et maintenant, voici que des serviteurs non-juifs, c'est-à-dire des païens qui ont quand même reçu une grâce de la sagesse commune de Dieu, vont également être utilisés par Dieu. Ils disent à Naaman, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Ils sont en train de dire, mais maître, on ne comprend pas, tu étais prêt à tout pour être guéri, tu étais prêt à tout. Regarde tout l'argent que tu as amené, regarde tous les cadeaux, s'il t'avait demandé plus que ça, tu serais retourné chercher de l'argent. Tu es prêt à tout pour ta santé. Mais là, il te dit juste, va te laver. 7 fois. 7 fois. Vous savez, parfois, c'est simple. Hein? Parfois, c'est simple. Parfois, vous avez une personne. Il faut juste lui dire, prends soin de toi. Mais ça, c'est redoutable parce que vous jouez avec le feu, ça touche l'intime. Là, se laver, c'était un acte un peu de un rituel. Et puis Naaman l'a vécu comme une humiliation, une blessure. Quoi donc? Moi, j'ai une bonne piscine à la maison. Moi, j'ai des lacs. J'ai des sources d'eau vive. Moi, je suis un général. Je peux même me prélasser comme dans un jacuzzi. Moi, je n'ai pas allé en ce Jourdain. Pas possible. Il se moque de moi. Mais les serviteurs de Naaman ont du bon sens. Et nous vivons dans un monde où, de moins en moins, le bon sens, c'est la chose partagée, n'est-ce pas? Où des adultes, hein, parfois aussi, n'ont pas le bon sens. Mais là, on a des adultes qui ont le bon sens. Ils lui disent tout simplement, calme-toi. Ils lui adressent une parole de paix, une parole qui l'apaise. Dans le livre de Proverbes, on a beaucoup de maximes qui nous disent qu'une parole douce calme la fureur. Une parole douce éteint les incendies. Il y en a, quand ils ouvrent la bouche, on dirait qu'ils ont une lance. Ce n'est pas pour éteindre l'incendie, hein, mais c'est pour arroser le gasoil. Hein. Ça aussi, la Bible nous met en garde. D'accord? Et grâce à ces serviteurs-là, qu'est-ce qui va se passer? Un autre pas, troisième pas décisif. Qu'est-ce qui se passe, les amis? Vous avez bien entendu, qu'est-ce qui s'est passé maintenant que Naaman a écouté des serviteurs sages qui lui ont dit, calme-toi, fais ce qu'on te demande, sois humble. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah là, il les a écoutés, mais je vois que les enfants, vous êtes perdus. Là, vous ne savez plus qu'est-ce qui se passe dans cette histoire. Alors, je vais vous rappeler, il avait la lèpre, il cherchait la guérison. Une petite fille lui dit, je peux avoir une solution. Ses serviteurs lui disent des choses. Et maintenant, il va obéir. Et regardez l'étape suivante. Il va entrer dans l'eau. Comment tu as dit? Ah, tu n'as rien dit, pardon. Il va se baigner. Cette fois, floup, deux. Et comme ça, cette fois, moi, je ne peux pas faire longtemps, hein, parce que ça use mes genoux. Et il va ressortir de là, étant guéri. Guéri. Ce que la puissance militaire n'a pas pu faire, ce que les rois n'ont pas pu faire pour lui. Dieu a utilisé des gens simples, des gens ordinaires, pour l'accompagner vers sa guérison. Est-ce que tu as confiance que Dieu peut t'utiliser dans ta simplicité, ton simple témoignage, peu importe ton âge? Et là, Naaman retourne, c'est la suite, vers le prophète Élisée, sa seconde comparution devant Élisée, qu'il n'a pas encore vue, puisqu'Élisée avait envoyé qu'un serviteur. Et là, quand on l'écoute, on comprend que le vrai miracle n'est pas sa guérison. Parce que la guérison n'est pas le salut. Ce n'est pas la guérison qui nous sauve. Si la guérison était le salut et pouvait être achetée à l'argent, croyez-moi, mon père vivrait encore. Et beaucoup de gens que j'aime vivraient encore. La guérison n'est pas le salut. Naaman va passer de la guérison au salut. J'aimerais vraiment que nous gardions ça petit et grand. Dieu aime Naaman et Dieu ne veut pas seulement guérir, il veut aussi sauver. Et ce qui est plus important, c'est qu'il nous sauve. Et alors Naaman va confesser sa foi. Donc il va passer de l'humiliation de la lèpre à une belle confession de foi. Je crois en un seul Dieu dorénavant. Il est prêt à balayer tous ses faux dieux. Il est prêt à tout abandonner de mauvais, tout ce qu'il ne croyait, ses fausses croyances. Et il dit, je crois au Dieu d'Israël. Mais Naaman, lui, il pense que, comme beaucoup de gens, ben, s'il a fait ça pour lui, rien n'est gratuit. Nos parents nous l'ont rappelé, n'est-ce pas? Il n'y a jamais rien de gratuit dans la vie. Alors il s'est dit, ben, moi, il faut que je donne en contrepartie beaucoup d'argent et beaucoup de cadeaux. Est-ce que Élisée a accepté son cadeau? Est-ce que Élisée a accepté son cadeau? Non. Non, il n'a pas accepté. Non. Dis-le fort.
Non.
Non, on peut applaudir tous ses enfants. Élisée n'a pas accepté le cadeau. Pourquoi? Parce que le salut est gratuit. Élisée a reçu gratuitement, cela nous a été rappelé par Fred, ce que l'apôtre Paul a dit, et il a donné gratuitement. On avance. Le miracle de la guérison de Naaman, je l'ai rappelé, fait écho à celui de la guérison du chapitre précédent, mais je vais vous laisser aller trouver les parallèles. Il nous montre, et ça résonne avec notre actualité, que Dieu qui a appelé Israël à être un instrument de bénédiction pour le monde n'a jamais voulu se limiter seulement au peuple d'Israël. Il a toujours voulu, dès le départ, par ce peuple aussi, bénir le reste de l'humanité. Et nous pouvons prier, parce que cette histoire, c'est aussi l'histoire d'une réconciliation, en tout cas promise, entre Naaman, le chef de l'armée syrienne, et la petite fille israélite et son peuple. Dans ce temps de guerre et de grandes inquiétudes, seule l'Église peut rappeler que Dieu veut bénir également Israël et les nations. Et seule l'Église peut prier de manière sincère pour tous les belligérants, pour toutes les personnes qui se font la guerre. Et pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, que par Israël, toutes les nations aussi soient bénies dans le beau nom de notre Seigneur. Il nous montre la voie. Et on aurait pu prendre des exemples dans l'évangile de Jésus. Jésus, vous savez, a aussi touché des lépreux. Il n'a pas exclu ceux qui étaient différents. Jésus a guéri même 10 lépreux. Et parmi les 10, il y a un qui est revenu. Et c'était un étranger aussi. C'était un Samaritain. Jésus a constamment voulu ramener le cœur de son peuple à sa vocation première, d'être une bénédiction pour toutes les nations. Question pour terminer. Oui, ça c'est... Voilà. Quelle est mon attitude en tant que serviteur ou servante de Dieu? Quelle est mon attitude? Et pour ça, on va afficher le passage de 1 Pierre 5. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous sa puissante main, sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On va prier pour conclure ce message. J'arrête le chrono. Merci Seigneur pour ta parole qui nous est donnée ce matin à tous, petits et grands, qui nous rappelle l'histoire de cet homme étranger, Naaman, qui n'a pas pu, malgré sa puissance, trouver une solution à ses problèmes par lui-même. Mais toi, Seigneur, tu as suscité des gens qu'on ne remarque pas souvent, des gens simples, des gens moins importants que lui aux yeux des hommes, des femmes, mais importants pour toi. Et ces personnes, tu les as utilisées pour être des instruments de bénédiction pour Naaman. Et nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos yeux à nous aussi sur ces personnes que nous ne voyons pas. Quand nous arrivons à l'église, nous voyons des arbres magnifiques, mais nous ne voyons pas ces personnes qui, tout au long de cette semaine en particulier, ont été sous la chaleur, ont travaillé, ont donné de leur temps. Et nous voulons les bénir en ton nom. Nous ne voyons pas ceux qui travaillent à la colombe et nous voulons les bénir à ton nom. Nous ne voyons pas ceux qui viennent laver le sol et nous voulons les bénir à ton nom. Nous ne voyons pas ceux qui se sont levés plus tôt pour préparer le café, pour être d'accueil et nous voulons les bénir en ton nom. Nous ne voyons pas toujours ceux qui sont à la technique, ceux qui réparent, ceux qui permettent que le culte se déroule bien. Nous voulons les bénir à ton nom. Et puis Seigneur, nous ne voyons pas tous ceux qui, chez eux, accueillent. Tous ceux qui chez eux prennent leur téléphone, appellent, encouragent. Tous ceux qui chez eux visitent d'autres. Tous ceux qui chez eux écoutent. Nous ne les voyons pas et pourtant nous le savons, tu as un peuple nombreux qui agit. Nous voulons les bénir. Nous bénissons toutes celles et ceux qui dans l'ombre, au cœur de notre Église, la soutiennent par les prières, par la bienveillance, par l'écoute, par le don de leur talent, le don même de leur générosité. Merci Seigneur, parce que toi tu vois chacun. Toi, tu sais, et toi, tu nous dis ce matin que cela a de l'importance à tes yeux et que cela fait la différence. Merci de nous aider à être ce peuple humble que toi-même tu élèves. Merci de nous aider à être ces serviteurs et ces servantes qui cultivent l'humilité. Seigneur, bénis nos enfants, que la transmission de la foi vraiment soit effective et efficace dans leur cœur pour qu'ils soient utilisés dès à présent là où ils sont, dans leur famille, à l'école, tout autour d'eux, qu'ils soient des témoins de ton amour, qu'ils s'intéressent aussi aux autres et qu'ils puissent apporter là aussi leur témoignage au nom de Jésus. Amen.